Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman d'Yves Tanré. Il n'échappera à personne que la voix que vous entendez n'est pas celle d'Yves, inimitable, le fondateur et l'animateur de cette émission qui fête ses 10 ans d'existence, mais celle de son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay, auteur de Métaphysique du rock. Yves, on sait que tu nous écoutes, on a hâte de te revoir très vite. Dans ce numéro de La vie est un roman, nous avons le plaisir de recevoir Clémentine Boulard, journaliste à Libération, Canal+, France 2, et réalise actuellement pour Arte et France Culture. Nous la recevons pour son livre sur Nico, modèle, actrice, chanteuse du Velvet Underground, 4 titres sur le célèbre album à la banane, mais aussi et surtout autrice, compositrice et interprète d'une œuvre musicale conséquente que Clémentine Boulard nous invite à découvrir ou à redécouvrir avec Qui a peur d'être dans le noir, sorti aux éditions Le Boulon. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Alors, vous vous souvenez à quel âge vous avez entendu pour la première fois la voix de Nico ?
Je pense que c'était forcément par le biais de mon père, qui est un grand fan de rock, et que c'était le Velvet. Je n'ai pas la date exacte, mais en tout cas, je suis à peu près sûre que c'était I'll Be Your Mirror. Et à l'époque, je pense que j'ai pu croire, comme beaucoup de gens, que Nico est un homme. Et en fait, j'ai découvert un peu plus tard, et ça c'est venu, je dirais, à la vingtaine, que c'était une femme et qu'elle avait une carrière énorme à laquelle je me suis intéressée dans mon livre.
Oui, c'est vrai qu'il faut préciser qu'elle a une voix assez grave, hein. On lui a reproché, puis finalement, de ce défaut, entre guillemets, elle en a fait une force. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous glisser dans la peau de Nico ? Parce que vous avez choisi un abord particulier, assez singulier, c'était celui d'une biographie subjective.
Oui, j'ai choisi d'écrire cette biographie à la première personne, ce qui peut paraître un petit peu présomptueux pour qui je me prends, sachant que je suis née un an avant la mort de Nico. Je ne l'ai pas connue, j'avais pas du tout d'accroche particulière avec elle, mais en fait j'avais envie, par ce livre et par le choix de cette forme, de lui redonner une voix, parce que j'ai le sentiment qu'elle a été mal entendue de son vivant. Pas tout à fait reconnue à sa juste valeur. Et pour moi, la première personne du singulier, me mettre dans sa peau, c'était, c'est ça, une façon de lui redonner vie et de raconter sa version de l'histoire. Parce qu'en fait, quand je me suis intéressée à Nico, je me suis rendu compte que on présente souvent, par exemple, son époque Velvet Underground comme l'acmé de sa carrière. Quand j'ai lu son journal intime, Cible Mouvante, qui a été édité chez Pauvert, je me suis rendu compte qu'elle, c'était peut-être pas le point vraiment clé de sa vie. D'ailleurs, elle dit « ma vie a commencé après le Velvet Underground et qu'elle, elle placerait plutôt un album comme Desert Shore ou ce qu'elle a fait après, ou son live à la cathédrale de Reims, qui était un concert complètement fou, le sommet de sa vie. Et donc, pour rétablir un petit peu ses balises, j'ai voulu me mettre dans sa peau. Et puis après, sans doute aussi qu'il y avait un certain nombre de blessures, de cicatrices qu'elle avait, dans lesquelles je me suis reconnue, et c'est aussi pour ça que j'ai adopté cette forme.
Alors, ce livre entend défaire quelques clichés concernant Nico. Hein. Quels sont les clichés les plus importants contre lesquels vous avez dû lutter ?
Alors, je dirais qu'il y en a deux. En fait, Nico, soit elle est réduite à ses obsessions un peu morbides, la cam, etc., ou soit elle est réduite à sa beauté. Elle l'a presque vécu comme une disgrâce, sa beauté, parce que certes, c'est ce qui l'a propulsé. Il faut savoir que Nico, elle a commencé mannequin. Donc, c'est grâce à ça qu'elle a été mise dans la lumière. Et c'est aussi pour ça, à cause... Enfin, grâce, je ne sais pas, à sa beauté, qu'elle a été repérée, notamment par Andy Warhol et Paul Morrissey, qui se sont dit, voilà, comment égayer ce Velvet Underground, ces gens qui regardaient leur pompe, ce groupe de rock un peu... un peu trash, un peu sordide, eh bien Nico, c'était la solution, la figure de proue qui pouvait un petit peu guider ce groupe. Et donc, voilà, je pense que ça a été les deux grandes souffrances de la vie de Nico. D'un côté, être cette espèce de muse inquiétante du rock et de l'autre, être réduit justement à ce statut de muse qui inspire toute une galerie d'hommes, hein, parce que Nico, elle n'a pas seulement été, comment dire, essentialisée comme... Enfin, elle n'a pas seulement été utilisée par, je mets des guillemets, hein, par le Velvet, mais ensuite, il y a tout un tas d'hommes qu'elle a séduit et qui ont voulu lui écrire des chansons. Et en fait, ce qu'on comprendra, c'est que Nico, elle n'a jamais voulu vivre dans le giron de quiconque et elle s'est détachée au fur et à mesure de tous ces hommes qui l'ont un petit peu modelé ou qui ont voulu voilà, imprimer quelque chose et pour vivre sa propre route. Voilà.
Oui, c'est ça. Il y a le cliché de la belle blonde, alors qu'en fait, elle était brune.
Oui.
Mannequin, donc, aurait été le jouet des pygmalions successifs comme Warhol, Lou Reed, John Cale. Il y a aussi l'autre cliché, c'est la croqueuse d'hommes, hein,
oui.
au tableau de chasse prestigieux. Jim Morrison, des Doors, Brian Jones, des Rolling Stones, Lou Reed... Leonard Cohen, Bob Dylan, Iggy Pop et surtout Alain Delon. Donc il y a cette autre image, et là vous venez de le dire, en fait, on pourrait avoir l'impression qu'elle a été victime des hommes, entre guillemets, et très vite on découvre, grâce à votre livre, qu'elle ne s'est jamais laissée faire.
Oui, c'est ça,
elle a vite pris le pouvoir même.
Oui, c'est ça, elle a retourné les choses, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. J'ai pas voulu la montrer comme une victime, mais plutôt montrer à quel point elle avait son mot à dire, et quand ça lui plaisait pas, elle se barrait. Par exemple, pour le Velvet, c'est assez marquant parce que elle a donc participé au célèbre album À la banane. À ce moment-là, elle savait pas vraiment chanter, enfin, c'était tout nouveau pour elle, elle parlait allemand, elle est née en Allemagne, Nico, on lui demandait de chanter en anglais. Bon, elle s'est prêtée à cet exercice, et très vite, ça lui a plu. Et en fait, il y avait deux fortes têtes dans le Velvet, il y avait Lou Reed et il y avait elle. Et en fait, il y a eu une sorte de clash d'égo, quoi. Et Nico, elle voulait chanter sur toutes les chansons, et par ailleurs, quand elle découvre les enregistrements, ça lui plaît pas. Tout à fait, parce que elle voulait que ça sonne comme Bob Dylan, et elle le dit. Et du coup, bah, ce sera une aventure assez courte, hein, le Velvet, 4 chansons, et elle s'en va, avant même que l'album ne sorte. Donc, et en disant, avec beaucoup de provocation, et ça c'est un truc que j'adore chez Nico, en parlant du Velvet comme un groupe de variété, bon, je pense qu'elle ne le pensait pas tout à fait, mais... Elle, voilà, elle avait vraiment des ambitions encore plus expérimentales et du coup, bah...
Hop, c'est d'autant plus injuste que le Velvet, à l'époque, sonne vraiment innovateur et puis risqué, parce qu'il y a quand même beaucoup de distorsions, de saturations. Ça frise avec la tonale. Enfin, il y a quand même l'influence de John Cale, qui a une formation classique et avant-gardiste. Donc, elle dit que ce soit un groupe de variété, pop, entre guillemets. Mais effectivement, c'est la dureté que Nico peut avoir parfois, qu'on retrouve dans cette phrase. Il y a une citation d'elle très importante qui permet de comprendre votre livre. Je cite « Je ne lis pas de biographies, elles sont pleines de mensonges, car elles disent que la vérité a un commencement, un milieu et une fin. Je ne crois pas au milieu et à la fin conduit à une autre fin. J'aimerais un jour qu'il y ait à mon sujet un roman. Il viendrait de l'imagination et ainsi expliquerait mon esprit, non ma vie. » Alors, par quel miracle l'imagination peut-elle mieux exprimer la vérité que les faits ? C'est une démarche totalement contre-journalistique, ça.
Oui, d'ailleurs, il a fallu que je me détache un petit peu de ma profession de journaliste quand j'ai entrepris ce livre. Parce que c'est sûr que pour être conforme à cette volonté de Nico d'expliquer son esprit et pas sa vie, voilà, ça suppose une sorte de pas de côté. Oui, j'ai essayé de contourner.
Mais vous êtes senti appelée quand elle dit « J'aimerais un jour qu'il y ait mon sujet, un roman ».
Oui, effectivement. Pour moi, ça a été la lecture de cette phrase, de cette citation, m'a dicté la forme que devait prendre mon livre. J'hésitais, je tâtonnais. Est-ce que j'allais oser écrire un livre à la première personne et me prendre pour elle ? Eh bien, en fait, c'est comme si Nico, à ce moment-là, m'avait, entre guillemets, fait un signe. Cette phrase, je l'ai trouvée vraiment puissante. Et il faut savoir qu'elle a été écrite à un moment où Nico, à la fin de sa vie, c'est ça qu'il faut peut-être dire aux auditeurs, c'est qu'elle, après avoir été la mannequin, à être devenue chanteuse, puis artiste totale, elle a voulu entamer une ultime métamorphose qui a été celle d'écrivain. Elle voulait, elle ne le formulait pas exactement comme ça, mais elle voulait écrire un livre et elle en parle dans son journal intime, Cible mouvante, en disant, en parlant justement de ce livre qu'elle voulait peut-être appeler Cible mouvante. Et elle a été emportée d'un coup hein, par une chute absurde en vélo sur l'île d'Ibiza en 88. Et ça a un petit peu avorté ce projet qu'elle avait d'écriture. Et donc c'est pour ça que, j'ai essayé de me mettre dans sa peau et de finir ce projet qu'elle n'a pas totalement mené.
C'est-à-dire qu'elle voulait aussi en finir avec Nico et laisser parler Christa.
Exactement, ouais. Elle voulait tuer Nico. Elle en avait marre d'elle. Et je pense qu'elle en avait aussi marre tout le temps qu'on la ramène. Parce qu'il faut savoir que même dans les années 80, on demandait toujours à Nico de parler du Velvet Underground, de ses quatre titres qu'elle avait fait il y a 20 ans plus tôt. Et en fait, Nico, elle n'en pouvait plus de ça. Elle n'en pouvait plus de cette femme noire, de tous les clichés qui lui collaient à la peau, de la cam, alors qu'elle était clean à ce moment-là. Elle a quand même fait tout un sorte de travail sur elle pour se débarrasser de toutes ses addictions. Et en fait, on regardait toujours cette icône macabre. Et donc, elle en avait marre. Donc, sa solution, c'est très beau, ça a été de se débarrasser de son personnage et vraiment d'aller creuser qui elle est vraiment et qui elle est vraiment à l'état civil, Christa Pavgen, née à Cologne, en Allemagne.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Clémentine Boulard pour son très beau livre sur Nico, qui a peur d'être dans le noir. On va écouter un premier extrait, une première chanson de Nico, qui s'appelle « I'll be your mirror ».
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Put down your hands, 'cause I see you. I find it hard don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid when you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Clémentine Boulard pour son livre sur Nico. Pourquoi ce morceau, Clémentine ?
Parce que je pense que ça a été l'une des plus belles déclarations d'amour en chanson qui existe. Je la trouve vraiment sublime. Je trouve qu'elle résume beaucoup de choses chez Nico. Le miroir... c'est quelque chose de très important parce qu'elle a pas, elle a refusé en fait d'être seulement le miroir dans lequel beaucoup d'hommes se seraient regardés. Enfin.
Et pourtant, c'est une phrase qui s'adresse à Lou Reed. Je serai
oui,
ton miroir.
Oui, 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 mais c'est effectivement, je pense que ça capte un moment. J'ai dit, les relations étaient tumultueuses entre eux, mais là, ça capte un moment peut-être fantasmé. On ne sait pas si cette histoire a été très limpide, mais je trouve que c'est quand même une des plus belles déclarations qui soit, celle d'une espèce d'amour inconditionnel, puisqu'il dit qu'il serait toujours là, à tous les... Il y a quelque chose de...
Mais ça vous touche personnellement. Donc c'est le premier morceau que vous avez entendu.
Ah oui, oui.
Et pour vous, c'est une des plus belles chansons d'amour qui a jamais été écrite.
Ah, totalement. Ouais, ouais. Ouais.
Alors dans votre livre, on découvre son enfance. Et c'est une enfance en fait qui n'est pas si idyllique que ça, hein, ouais. Puisqu'elle naît bâtarde dans un pays qui va apporter l'apocalypse en Europe et qui sera bientôt ravagé à son tour. Donc c'est pas une enfance heureuse vraiment. Elle est rejetée par la famille paternelle.
Oui, oui, c'est une enfance même très noire qu'elle a connue, puisque en fait, elle a passé du temps dans un orphelinat alors qu'elle avait à peine quelques mois. Puis ensuite, son père est décédé alors qu'elle avait seulement 4 ans. Son père qui était engagé volontaire dans la Wehrmacht, mais qui a ensuite été broyé par... la machine nazie. Ensuite, elle a connu Berlin sous les bombes. Elles sont allées se réfugier avec sa mère à Lübbenau, au sud de Berlin. Elle voyait, son grand-père était aiguilleur et elle voyait en fait des trains conduisant des déportés. Son jeu avec sa meilleure amie, c'était aller dans un cimetière.
C'est la fille du fossoyeur.
Voilà, la petite fille du fossoyeur était sa meilleure amie. Bon, voilà. Effectivement, elle a vraiment eu une enfance très dure, marquée par la guerre, le nazisme. Et c'est quelque chose que l'on ressent vraiment dans ses chansons, dans beaucoup de chansons. Je pense à Frozen Warning, à énormément de... Oui, il y a l'Allemagne, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, qu'elle a voulu fuir, puisqu'on se rend compte que... ça l'arrangeait bien, finalement, de s'appeler Nico et pas Christa Pavgen à certains moments de sa vie. Et d'ailleurs, elle aimait, avec Andy Warhol, elle aimait bien... elle avait un jeu, c'était de s'inventer des identités. Elle disait qu'elle était suédoise, elle disait... Enfin, tout sauf allemande, comme si ce passé ne passait pas, quoi.
Alors, il y a ce drame mondial, hein, qui est la Seconde Guerre, et puis il y a aussi un drame personnel. À 13 ans, elle est violée par un sergent noir américain qui sera arrêté. Elle témoigne avec d'autres contre lui et il est pendu.
Oui, ça c'est un...
Et elle culpabilise de la mort de son agresseur.
Tout à fait. C'est un drame dans sa vie personnelle qui fait un peu partie des angles morts dans les biographies que j'ai pu lire. C'est un épisode qui n'est pas énormément traité. Certains en doutent même. Je ne pense pas qu'on s'amuse à s'inventer un viol. Évidemment qu'elle a subi quelque chose. Alors, c'est très vague, hein, les preuves qu'on a. Et même dans son œuvre, elle n'en parle pas beaucoup.
Il y a une chanson de Lou Reed qui
oui,
évoque...
Oui, il y a une chanson, The Black Sergeant, qui évoque ce sergent américain qui l'aurait... violée, donc, qu'il l'a violée. Et ça, effectivement, c'est un traumatisme énorme. Et effectivement, il y a aussi, comme toute femme violée, cette culpabilité que l'on ressent, qui, elle, a été augmentée justement parce que son agresseur a été pendu. Donc vraiment, c'est un trou noir, hein, un gouffre pour Nico, on l'imagine bien, et qui, je pense, a déterminé un petit peu les relations qu'elle a eues aux hommes après. Et j'imagine, je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais j'imagine que cet épisode... Et peut expliquer pourquoi, parce que c'est ça qui est peut-être un peu fascinant à Nico, pourquoi elle ne s'est jamais posée, pourquoi elle a toujours fui. Peut-être qu'on a là un des éléments, une clé d'explication sur ce côté un petit peu détaché.
Alors elle rêve quand même à cet âge-là d'être danseuse de ballet, chanteuse d'opéra. Sa mère se saigne aux quatre veines pour qu'elle puisse développer une carrière artistique. Mais ça échoue, elle est trop grande, 1m78, et sa voix est bien trop grave. Elle a le sentiment d'être enterrée avant même d'éclore.
Ouais, c'est sûr qu'elle avait des rêves énormes, Nico. C'est ça aussi que j'aime chez elle, ce côté tout ou rien, excessif, l'excellence ou rien du tout. Je veux être danseuse d'opéra, je veux chanter. Elle a été un peu empêchée, parce que par exemple, pour sa voix... sa tante a essayé de lui rééduquer sa voix parce qu'elle était, on la trouvait trop grave. Après, plus tard, on n'a pas cessé de lui dire trop grave. Et d'ailleurs, dans ses premiers enregistrements, elle a une voix un peu aiguë et qu'elle déteste. Et tout ça pour dire que, effectivement, après s'être pris un certain nombre de portes, et bien elle a attendu que l'une s'ouvre. Et bon, ça a été la chanson, mais ça, c'était plus tard dans sa vie, quoi.
Oui, tout n'est pas que malheur dans sa prime jeunesse. Hein. D'abord, elle est très belle. Alors au début, c'est une bénédiction, hein, puisque un agent d'un grand couturier la repère sur un marché et que sa carrière de mannequin commence. Et puis, ça lui permet quand même de rencontrer des gens en dehors de la mode, qui sont du milieu artistique, et là, ça va être fondamental pour elle. Alors, elle croise Chet Baker, Jeanne Moreau, Hemingway, Ornette Coleman, tout ça, c'est vrai ou c'est légende ou réalité?
Eh bien, je pense que cette question, on peut... selon les biographes, il y a des versions alternatives, ou qui diffèrent, voilà, ça reste assez mystérieux et ça fait, ça a contribué à faire d'elle en tout cas une légende, c'est certain. Je pense qu'elle, elle s'amusait avec ses mensonges, ça la faisait marrer à mon avis de s'inventer, par exemple aussi, elle disait que c'était une mannequin Chanel, ça on n'a pas vraiment de... Mais en fait moi je trouve ça beau, ça recoupe ce que vous me disiez tout à l'heure sur le pouvoir de l'imagination, c'est aussi comme ça qu'on crée, elle a créé aussi sa propre mystification. Pour Hemingway, je pense que c'est vrai, elle a fréquenté ces quartiers, ce quartier-là, où... de Saint-Germain, voilà, mais finalement, je sais pas si c'est si important que ça de savoir si c'est vrai ou c'est faux. C'est plus la façon dont elle s'en joue et elle l'utilise. Et c'est aussi comme ça qu'on crée sa légende, quoi.
Mais il faut savoir qu'elle fréquente les milieux les plus branchés, entre guillemets, que sa beauté est extrême, puisqu'elle est quand même surnommée une des plus belles femmes du monde. Et alors, effectivement, il y a plus ou moins des mythes ou en tout cas des légendes à son propos qu'elle aura peut-être elle-même entretenues, comme vous venez de le dire. Mais il y a quand même deux rencontres avérées, tout à fait véridiques, et qui vont changer sa vie. C'est la rencontre avec deux cinéastes. D'abord Fellini, qui la prend dans un de ses films, et un autre cinéaste, mais qui est aussi peintre, qui est Andy Warhol. Alors là, ça change vraiment sa vie, ces vraies rencontres.
Ah oui, c'est sûr qu'à deux échelles complètement différentes, parce que ce n'est pas du tout les mêmes milieux, ce sont deux personnes qui vont la propulser, la mettre dans la lumière. Il y a quelque chose qui est très drôle avec Nico, c'est que, par exemple, s'agissant de sa participation au film La Dolce Vita, qui sera une palme d'or quand même, elle va s'arrêter quasiment après ça. Enfin, elle ne va pas l'utiliser. Enfin, je pense que quand on... Des propositions après ce film, elle en a eu. Et puis, parfois, bah, elle ne s'est pas levée pour se rendre au casting. Elle avait une espèce de... nonchalance, crasse, mais qui témoigne peut-être du fait qu'elle n'avait pas forcément envie de choisir une voie populaire, de faire de l'art du pop. Pareil pour Warhol, Warhol lui a ouvert les portes du Velvet, de la Factory, c'est énorme, enfin c'est... dingue pour quelqu'un comme Nico. Et en fait, derrière, eh bien, elle se barre et elle choisit d'aller faire des enregistrements avec John Cale, de faire quelque chose de beaucoup plus...
Elle choisit la difficulté.
Oui, elle choisit toujours la difficulté. Et ça, du coup, c'est intéressant. Mais après, le rôle, encore une fois, de Fellini et de Warhol est indéniable. Enfin, d'ailleurs, elle utilise le fait qu'elle est l'égérie de la Dolce Vita pour, par exemple, conquérir Warhol. Enfin, toujours des arguments qu'elle va mettre en avant. Mmh. Mais pour autant, derrière, elle ne va pas forcément choisir ce chemin-là et choisir, bah, par exemple, pour le cinéma de Philippe Garrel, qui est, pour le coup, d'un avant-gardisme absolu, quoi. Mmh.
Donc la greffe avec le Velvet ne prend pas, en fait, parce qu'on l'a choisi, c'est la touche glamour pour un groupe qui n'était pas vraiment sexy, vous l'avez dit. Mais par contre, ça lui permet de travailler avec John Cale. Et là, ça devient très intéressant, ce qu'ils font
oui,
ensemble.
Oui, bah, en fait, je pense que avec John Cale, elle retrouve un peu ses racines européennes, Nico.
Oui, parce qu'il est gallois.
Voilà. Et donc, il y a un peu un côté celtique. Et donc, avec lui, ça marche bien, leur collaboration. Même si après, elle aura encore besoin d'aller plus loin et de creuser encore plus.
Oui, parce qu'après, elle va travailler avec Jackson Browne, qui est un guitariste américain. Leonard Cohen va écrire des chansons pour elle. Elle va aussi travailler avec Brian Eno. Enfin, grosso modo, les plus grands musiciens du moment et même les plus grands musiciens de la musique de cette époque. Alors, grâce à votre ouvrage, on comprend très vite qu'elle n'est pas cette poupée manipulée par des pygmalions plus ou moins intéressés, qu'elle prend vite l'ascendant, qu'elle prend la direction. Elle ne se laisse pas faire, on l'a évoqué. Il y a quand même un grand drame dans sa vie dont elle ne s'est jamais cachée. C'est son fils, Harry, qu'elle a eu avec Alain Delon, enfant que Alain Delon ne reconnaîtra pas, alors que sa grand-mère, Alain Delon, le recueillera, et dont on lui a retiré la garde à cause de ses problèmes d'héroïne.
Oui, là, on touche vraiment à une des plus grandes souffrances de Nico et en même temps sa plus grande joie. C'est une ambiguïté que j'ai essayé de creuser dans mon livre, vraiment sa relation avec Harry, son fils, qui est présent dans sa discographie. Il y a notamment un titre qui s'appelle Harry's Song. Donc il est là.
Il chante même sur un morceau, le petit cavalier.
Voilà, il chante le petit chevalier. Mmh. C'est... c'est hyper touchant. Donc, en fait, ce rôle de mère, il m'a questionnée parce que dans les clichés qui collent à la peau de Nico, il y a aussi celui de mère indigne, mère qui ne s'est pas occupée de son fils, mère qui n'a pas su l'éduquer, être présente. Et si bien qu'il a été, comme vous l'avez dit, adopté par la famille Boulogne. Certes, je pense que ça a été une mère, entre guillemets, en pointillé, parce que c'était une mère qui dédiait sa vie à son art et qui a peut-être sacrifié un petit peu son fils sur l'autel de sa création. Mais ce que je voudrais quand même rappeler, en tout cas moi, tout ce que j'ai pu lire de Nico sur son fils et l'empreinte qu'il a dans son œuvre, etc., nous montre quand même qu'elle a été autre chose qu'une mère indigne. Elle a aussi été une mère aimante. D'ailleurs, quand on lit « L'amour n'oublie jamais », le livre que lui a écrit, qu'a écrit Harry, on se rend compte que c'est pas aussi binaire, enfin aussi simple que ça, que d'ailleurs ils se sont réconciliés au bout d'un moment, après des années de distance et de relations compliquées. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que, en fait, s'il y a quelqu'un d'indigne dans cette histoire, c'est peut-être celui qui ne l'a jamais reconnu, hein. Et deuxièmement, je pense que c'était une mère assez... Pas banal. Oui, c'était pas du genre. C'est pas le genre de mère qui va lui acheter un goûter, l'attendre avec des. Voilà. C'était pas ça, Nico. Mais c'était une mère qui, par exemple, l'a emmené à la factory. Il y a des photos d'Harry où il fait des boules de neige. Voilà.
Et même sur scène avec le Velvet, on le voit avec le
Voilà, c'est une mère qui l'amenait aussi sur scène et qui lui a. Je pense donner le goût de la création, parce qu'il a écrit des choses, photographié. Et par ailleurs, c'était aussi une maman qui l'a emmené en Égypte tourner un film, La cicatrice intérieure, où on voit Harry la tirer, elle, sur son cheval blanc. Enfin, c'est complètement fou d'avoir une mère comme ça, et c'est aussi riche. C'est aussi elle a pu lui envoyer... quand ils étaient séparés, parce qu'il était en pension, ils ont partagé certains moments qui semblent avoir été très forts. Elle a pu lui partager, de la musique aussi. Donc voilà, on peut aussi regarder ça et pas uniquement l'absence qui certes, je pense, était quand même un élément authentique. Enfin, oui.
Voilà. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 avec Clémentine Boulard qui nous parle de Nico pour ce très beau livre qui s'appelle « Qui a peur du noir ?» paru aux éditions Le Boulon. Donc il y a ce fils Harry qui connaît un peu le destin de sa mère aussi parce qu'il est rejeté comme elle et il va avoir aussi des problèmes d'héroïne. Ils vont même consommer de l'héroïne ensemble.
Oui, voilà. Ça fait un peu les choux gras, entre guillemets, de la presse et de, et de certains... biographes qui ont un petit peu appuyé là-dessus. Effectivement, elle a peut-être eu malheureusement ce rôle-là. Ils ont pu partager cette souffrance. Mais je pense que l'héroïne, c'est toujours une réponse à un manque. Ce manque, il a été provoqué par des éléments qui sont extérieurs à Nico, et notamment cette absence de père.
Ils ont été rejetés tous les deux,
oui,
dans un milieu hostile.
Dans un milieu hostile
On peut rappeler aussi à quel point c'était difficile à l'époque pour une femme d'être artiste et d'être libre et indépendante. On peut citer Patti Smith qui a abandonné son premier enfant à l'assistance publique pour pouvoir faire sa carrière. Elle n'aurait pas pu faire autrement. Et à quel point c'était, surtout quand on n'était pas sous la tutelle d'un homme qui était soit un producteur, soit un manager ou un mari crapuleux.
En effet. Et puis aussi, je voudrais souligner une chose, c'est que... dans la mythologie rock, prendre de l'héroïne pour un homme, c'est rock'n'roll. Et puis pour une femme, on va tout de suite dire « Ah, c'est sale, c'est... Donc là, il y a un peu une inégalité. Je veux dire, Nico a pris de l'héroïne à un moment où tout le monde... Enfin, tout le monde. Dans son milieu, ils en prenaient tous. Certains, d'ailleurs, ont été tués.
Là, beaucoup sont morts.
Voilà, pas elle. Ouais. Ce qui, voilà, peut en surprendre certains. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut rétablir. C'est qu'elle en prenait, mais... beaucoup d'hommes en prenaient et pour autant, pour eux, c'était cool et rock'n'roll.
On va écouter un second morceau de Nico qui s'appelle Afraid.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Vous êtes toujours sur Allegre FM 93.1 en présence de Clémentine Boulard qui nous parle de Nico dont on vient d'entendre un morceau qui s'appelle Afraid. Clémentine, pourquoi avoir choisi ce morceau de Nico ?
Je crois que c'est un de mes morceaux préférés de Nico. Ce que j'aime, c'est que Nico est accompagné du piano. Il est un peu dissonant par rapport au répertoire de Nico puisqu'on connaît Nico avec l'harmonium. Un instrument qu'elle a introduit et qui a même fait qu'elle a créé un style finalement grâce à l'harmonium, qui est un instrument qui vient du folk, qui n'a rien à voir avec la musique un peu plus rock qu'elle fait. Et du coup, cette chanson, elle est un peu dissonante par rapport à ce qu'on connaît de Nico. Et par ailleurs, je la trouve très puissante par ses paroles, parce que je pense que le refrain « You're beautiful and you are alone », vous êtes magnifique et vous êtes seul, c'est un peu le drame de Nico et en même temps aussi sa beauté. Enfin, donc pour moi, ça résume vraiment le paradoxe et l'essence de Nico. Ouais.
Alors Nico perd sa beauté à cause de l'héroïne notamment, et plus elle se détruit physiquement et plus ses albums sont passionnants, originaux, uniques. Elle a cette conviction ultime que l'art est supérieur à la vie ou que du reste, les deux se confondent.
Et oui, elle est très proustienne là-dessus. Nico, c'est ça. J'aime bien le parallèle que vous venez de faire entre son enlaidissement et le fait qu'elle aille dans une... elle creuse un sillon de plus en plus personnel, parce que je pense que effectivement, elle a voulu se débarrasser, en fait, au fur et à mesure de sa vie. Quand on regarde des photos de Nico, donc elle était blonde, enfin, elle était brune, mais on l'a connue au début, blonde, vaporeuse, sublime. Et puis, au fur et à mesure, c'est ça, il y a une sorte de... puis rousse, puis brune, avec des poches sous les yeux, vraiment... Et je pense que, comme elle en avait marre d'être réduite à sa beauté et qu'elle voulait qu'on la considère pour son talent, pour son art, eh bien, il y a cette espèce de corrélation qu'on peut observer et voilà, qui aboutit à un art très, 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 très singulier et de plus en plus avant-gardiste.
Ce sont les albums à contre-courant, à tempestif, qui sonne tour à tour rock, médiéval, folklorique, oriental, sacré.
Oui, la dimension sacrée de sa musique, c'est important. C'est d'ailleurs, dans son journal intime, on retrouve beaucoup ça, dans ses derniers mots aussi qu'elle a écrit. Il y a la dimension sacrée de sa musique. Et c'est une sorte de messe, en fait. On peut... en écoutant certains albums, se dire... l'harmonium aussi participe à ça. Et d'ailleurs, la dimension sacrée de sa musique, c'est quelque chose qui a été consacré, si je peux me permettre, à un moment de sa vie. C'est son live à la cathédrale de Reims en 1974. Là, enfin, elle avait, entre guillemets, un écrin qui lui permettait d'exprimer cette chose-là. Ça a été une messe complètement dingue hein, pour ceux qui ont participé. Et ce qui est drôle, ou ironie de l'histoire, c'est que Nico va être excommunié à la suite de ça.
Incroyable.
Comme si... donc, à la fois, on a d'abord validé la dimension de sa musique, puisque c'était très rare que des musiciens rock jouent dans la cathédrale de Reims. Mais juste après, elle s'est fait... jetée et excommuniée.
Mais pourtant, elle était, sa mère était protestante, et je pense qu'elle était protestante. Comment elle peut être excommuniée? Elle a été catholique?
Je pense que c'est...
une déclaration de l'autorité papale
une déclaration officielle pour dire, voilà, c'est la musique du diable. Vous avez... Parce que pendant ce live à la cathédrale de Reims, il y a eu... manifestement des excès,
les
gens
se
sont drogués dans les bénitiers, je sais pas quoi. Enfin, il y a eu énormément de racontars là-dessus. Et voilà.
Elle dit une phrase terrible. Elle dit : « Si je n'avais pas été chanteuse, j'aurais fait partie de la bande à Bader. »
Ouais, il y a ce côté un peu extrême hein, chez Nico, mais il y a aussi Nico qui nous dit. J'aurais rêvé être fleuriste, par ailleurs. Donc, en fait, c'est ça, Nico. Elle est toujours d'un extrême l'autre. En fait, moi, je trouve que c'est une dimension très intéressante chez elle, parce qu'à la fois, elle peut être dans des choses très calmes et compagnie, mais de l'autre, bon après c'est quelque chose qu'on peut remarquer chez plein d'autres musiciens, hein, mais elle avait par exemple ce goût pour les romantiques, pour Coleridge, tous ces poètes. Donc voilà, la beauté extrême côtoie le noir le plus... certaines bassesses, quoi. Et ouais, toujours dans les extrémités, jamais au milieu, Nico.
Alors, son nihilisme revendiqué, qu'elle attribue à tort à Nietzsche, ne constitue-t-il pas le plus grand malheur de sa vie, de découvrir en fin de compte que ni l'art ni l'héroïne ne peuvent remplacer l'absolu ?
Peut-être, oui. Ça, c'est votre analyse philosophique.
Non, vous avez évoqué le sacré. Parce on retrouve effectivement chez elle à la fin non seulement un souffle sacré dans sa musique et dans son chant surtout, mais elle cite des artistes comme référence, comme Oum Kalsoum ou Nusrat Fateh Ali Khan, qui sont des chanteurs religieux pour le coup.
Oui, c'est ça. Effectivement, elle avait toutes ses influences, hein, arabes, indiennes. Et oui, il y a une sorte de trajectoire de plus en plus métaphysique, hein, de sa musique. C'est comme ça qu'elle...
Alors, c'est une artiste qui a traversé quand même deux décennies de création, qui a tenu, ça il faut le rappeler, parce que toujours pour aller contre ce cliché de la pauvre toxico qui aurait été abusée par des managers plus ou moins véreux qui l'auraient fait tourner à travers le monde juste pour l'argent et la drogue, donc ça ne colle pas, puisqu'elle continue à créer, elle produit, et surtout, on le rappelle, elle écrit, elle compose, elle interprète elle-même, et souvent elle dirige sur les musiciens, donc elle n'est pas du tout manipulée par le showbiz. Donc il y a cette idée qu'elle a quand même traversé deux décennies, et surtout une jeune génération de musiciens va se réclamer d'elle et va chercher soit à travailler avec elle, soit à lui rendre hommage, notamment Morrissey en Angleterre ou Étienne Dao en France.
Oui, je pense qu'on sous-estime l'empreinte qu'elle a eue dans la musique. Vous avez cité Étienne Dao, on peut aussi prendre plus récemment Clara Luciani, qui ne jure que par... qui ne jure, c'est peut-être un petit peu... Mais Nico, pour elle, est une énorme influence. Il y en a beaucoup. Courtney Barnett, par exemple, qu'on peut citer dans le rock plus indépendant. Donc oui, Nico, elle a finalement imprimé... toute la scène gothique aussi en Angleterre. Donc, grande
Succès and the Banshees, je pense que...
Succès and the Banshees, évidemment.
Elle a été influencée par Nico.
Donc, c'est ça. Donc, c'est aussi important de souligner qu'elle a eu toute cette influence sur une scène qui va jusqu'à aujourd'hui.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Clémentine Boulard pour son livre sur Nico. Donc nous sommes là pour défaire les clichés qui collent encore à la peau de Nico. Et grâce à vous, on aperçoit un peu mieux la vraie personne qu'elle a été, surtout l'artiste considérable qu'elle a pu être et qu'elle est encore pour nous, puisqu'on écoute actuellement encore toujours ses disques. Et ces disques ont laissé une grande empreinte, comme vous le dites. Est-ce que vous faites un lien avec d'autres artistes féminins ? Est-ce qu'il existe pour vous un équivalent ? Dans les mêmes années, je veux dire.
Oui, par moment, j'ai eu un peu... par rapport au fait qu'elle a été parfois mal interprétée ou mal entendue, j'ai pu constater peut-être un parallèle avec Patti Smith, dans le sens où Patti Smith... On peut penser que c'est quelqu'un de très rock'n'roll. Et en fait, Patti Smith, elle a passé son temps. Enfin, quand on lit Just Kids ou ce genre d'écrit, on se rend bien compte que ce qu'elle préférait au monde, c'était être avec un livre dans sa chambre. Et ce côté aussi de s'être entre guillemets masculinisé pour être entendu, on peut faire le parallèle entre les deux. Nico, elle avait aussi ce truc-là. D'ailleurs, on disait que c'était un peu une flemmarde parce qu'elle adorait mettre de l'encens dans sa chambre et lire des romantiques, Nietzsche. Bon, c'est pas forcément l'image qui nous vient quand on évoque son nom, mais il y avait cette dimension-là et je trouve que dans la façon dont elles peuvent être caricaturées, ces deux femmes, côté un peu rock'n'roll, machin, pas si rock'n'roll, en fait, plus dans un certain lyrisme, en fait. Et d'ailleurs, quand on se plonge un peu dans les paroles de Nico, parce que là aussi, je trouve qu'elle est mal entendue, elle est mal lue. C'est une grande songwriter, en fait. On peut trouver sa musique un peu dingue et âpre, dure d'accès à la fin. Mais si on lit les paroles, c'est très beau, quoi. Oui, il y a une grande empreinte des romantiques. Et je pense que là-dessus, ouais, on peut faire le parallèle.
Moi, l'autre équivalent que je vois, le seul à la même époque, c'est Yoko Ono.
Ah oui.
Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent comme rapprochement ?
Oui, aussi dans la façon dont elles ont toutes les deux été réduites à des muses, en fait. Et c'est vrai que là, il y a eu pas mal d'ouvrages que j'ai... Enfin, quand je me suis un peu documentée sur Yoko Ono, on se rend compte que l'empreinte qu'elle a eue sur John Lennon est pas... C'est toujours pareil, quoi. Il faut inverser la lunette et montrer comment elles aussi, elles ont modelé les hommes qui ont traversé leur vie. Et d'ailleurs, pour Nico, c'est vrai, dans le sens où Lou Reed dira lui-même qu'il a été énormément influencé par elle, jusqu'à parfois même limité dans son phrasé. Nico ira jusqu'à dire, par exemple, que sur Sunday Morning, c'est elle qui l'a influencé. Alors ça va peut-être un petit peu loin, mais en fait, il faut, c'est ça, inverser notre vision pour regarder à quel point ces femmes ont marqué, en fait, leur supposé Pygmalion ou modèle.
Pour découvrir Nico, d'après vous, il faut commencer par quel disque ?
Je vous dirais, même si ça ne va pas lui plaire, Chelsea Girl, qui est le premier album solo, même si c'est beaucoup de collaborations. Il n'y a qu'une chanson qui est vraiment d'elle-même sur cet album-là. C'est beaucoup des chansons que d'autres lui ont écrites. Mais je trouve que c'est quand même une bonne entrée en matière, parce que si on commence par Marble Index, ça peut être un peu costaud. L'avantage de Chelsea Girl, c'est qu'il y a des arrangements que personnellement je trouve sublimes.
Mais qu'elle, elle a renié.
De John Cale, qu'elle a renié. Oui, mais après, faut aussi se détacher. Là, je conseille l'auditeur qui voudrait se familiariser, avoir une première approche. Et je trouve que Chelsea Girl, c'est. Ça peut être une bonne idée. Après, moi, personnellement, j'aime beaucoup Desert Shore, qui a été la bande originale de La cicatrice intérieure, un film de Philippe Garrel que je recommande, parce que c'est une espèce de big bang visuel, sonore, un objet, un ovni, en fait, dans l'histoire du cinéma. Et la bande son est très belle. C'est là-dessus qu'il y a ma chanson adorée, Afraid. Voilà. Donc, ce seraient mes deux recommandations.
Alors, il faut rappeler quand même qu'il y a quand même une grande histoire d'amour dans sa vie. C'est celle avec Philippe Garrel qui a duré presque 10 ans.
Oui.
Ça, il faut le rappeler.
Oui, et c'est sûr que ça a été une très belle histoire d'amour.
Elle s'est rapprochée de son
malheureusement,
fils.
Malheureusement, une histoire d'amour un petit peu triangulaire aussi avec l'héroïne, parce que c'est à ce moment-là qu'elle a sombré. D'un point de vue créatif, en fait, l'histoire avec Philippe Garrel a été très riche parce qu'elle a notamment abouti à ce film La cicatrice intérieure que Nico a presque co-scénarisé, d'après ce que les témoignages de Garrel. C'est la première fois dans sa carrière qu'elle a été considérée comme co-partenaire de création. C'est inestimable. Je pense qu'après, ça lui a vraiment donné une assise pour ensuite de plus en plus s'émanciper des hommes et tracer son sillon musical, quoi.
Philippe Garrel revient dans cette histoire dans un très beau film qui s'appelle « J'entends plus la guitare ». Et pour finir, parce qu'on arrive au terme de l'émission, quel est votre disque préféré si vous deviez en garder un seul de Nico? Ça serait lequel?
Là, c'est vraiment... c'est
cool. Alors, celui que vous écoutez le plus souvent, voilà. C'est plus simple comme
Je pense
question.
Qu'en fait, je vais peut-être être décevante, mais... comme je l'ai découvert par le Velvet, en fait, pour moi, cet album du Velvet, je l'ai poncé, l'album à la banane, The Velvet Underground and Nico, qui devrait s'appeler Nico and The Velvet Underground, parce que ce serait plus juste. C'est celui-là qui me... C'est le Celesta aussi, cet instrument-là, un peu, qui nous donne l'impression presque d'une comptine, et qui contraste toujours avec un côté très violent par ailleurs de leur musique. Et moi, cette dualité là, du Velvet, je trouve que c'est... j'y reviens toujours, enfin, voilà, comme un disque rayé.
Merci beaucoup Clémentine Boulard d'être venue nous parler de votre livre sur Nico, Qui a peur d'être dans le noir, paru aux éditions Le Boulon. Merci beaucoup à René. Derrière la vitre qui a assuré la technique. Nous rappelons que nous fêtons les 45 ans de Radio Ali, 45 ans de liberté, d'indépendance. Vous avez remarqué, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de sponsor. Donc cette liberté a un coût malgré tout, même si elle n'a pas de prix. Vous pouvez faire des dons, vous allez sur le site, il y a marqué appel aux dons, vous cliquez et vous donnez ce que vous voulez et ça nous aide à rester libre. Voilà, l'émission est terminée. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours avec Nicolas Chemla pour son livre « L'ensorcelé ». Eh bien, à très bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.